Chapitre 2. Il fut charmé de mon mouvement et me prit la main, qu'il baisa d'une manière fort tendre. Façon de faire qui, au milieu de mon petit transport, me parut encore singulière, mais toujours de cette singularité qui m'étonnait sans rien m'apprendre, et que je penchais à regarder comme des expressions un peu extraordinaires de son bon cœur. Quoi qu'il en soit, la conversation de ma part devint de ce moment-là plus aisée. Mon aisance me donna des grâces qu'il ne me connaissait pas encore, et il s'arrêtait de temps en temps à me considérer avec une tendresse dont je remarquais toujours l'excès, sans y entendre plus de finesse. Il n'y avait pas moyen non plus qu'alors j'en pénétrasse davantage. Mon imagination avait fait son plein sur cet homme-là, et quoique je le visse enchanté de moi, rien n'empêchait que ma jeunesse, ma situation, mon esprit et mes grâces ne lui eussent donné pour moi une affection très innocente. On peut se prendre d'une tendre amitié pour les personnes de mon âge dont on veut avoir soin. On se plaît à leur voir du mérite parce que nos bienfaits nous en feront plus d'honneur, enfin, on aime ordinairement avoir l'objet de sa générosité et tous les motifs de simple tendresse qu'un bienfaiteur peut avoir dans ce cas-là. Une fille de plus de 15 ans et demi, quoiqu'elle n'ait rien vu, les sent et les devine confusément. Elle n'en est pas non plus surprise que de voir l'amour de son père et de sa mère pour elle. Et voilà comment j'étais. Je l'aurais plutôt pris pour un original dans ses façons que pour ce qu'il était. Il avait beau reprendre ma main, l'approcher de sa bouche en badinant, je n'admirais là-dedans que la rapidité de son inclination pour moi, et cela me touchait plus que tous ses bienfaits, car à l'âge où j'étais, quand on n'a point encore souffert, on ne sait point trop l'avantage qu'il y a d'être dépourvu de tout. Oui, peut-être devrais-je passer tout ce que je vous dis là, mais je vais comme je puis. Je les garde de songer que je vous fais un livre, et cela me jetterait dans un travail d'esprit dont je ne me sortirais pas. Non, je m'imagine que je vous parle et tout passe dans la conversation. Continuons-la donc. Dans ce temps, on se coiffait en cheveux, et jamais créature ne les a eu plus beaux que moi. 50 ans que j'en ai et n'en ont fait que diminuer la quantité, sans en avoir changé la couleur, qui est encore du plus clair châtain. Monsieur de Climat les regardait, les touchait avec passion, mais cette passion, je la regardais comme un pur badinage. « Marianne, me disait-il quelquefois, vous n'êtes point si à plaindre de si beaux cheveux et de ce visage-là, ne vous laisseront manquer de rien. Ils ne me rendront ni mon père ni ma mère, lui répondis-je. Mais ils vous feront aimer de tout le monde, me dit-il, et pour moi, je ne leur refuserai jamais rien. Oh, pour cela, monsieur, lui dis-je, je compte sur vous et sur votre bon cœur. Sur mon bon cœur, reprit-il en riant, et vous parlez donc de cœur, cher enfant, et le vôtre, si je vous le demandais, me le donneriez-vous? Hélas, vous le méritez bien, lui dis-je naïvement. À peine eus-je répondu cela, que je vis dans ses yeux quelque chose de si ardent que ce fut un coup de lumière pour moi. Sur le champ, je me dis en moi-même, il se pourrait bien faire que cet homme-là m'aimât comme un amant aimait une maîtresse, car enfin j'en avais vu des amants dans mon village. J'avais entendu parler d'amour. J'avais même déjà lu quelques romans à la dérobée. Et tout cela, joint aux leçons que la nature nous donne, m'avait du moins fait sentir qu'un amant était bien différent d'un ami, et sur cette différence que j'avais comprise à ma manière, tout d'un coup les regards de M. de Climal me parurent d'une espèce suspecte. Cependant, je ne regardais pas l'idée qui m'en vint sur le champ comme une chose encore bien sûre, mais je devais bientôt en avoir le cœur net, et je commençais toujours en attendant par être un peu plus forte et plus à mon aise avec lui. Mes soupçons me défirent presque tout à fait de cette timidité qu'il m'avait tant reprochée. Et je crus que, s'il était vrai qu'il m'aimât, il n'y avait plus tant de façons à faire avec lui et que c'était lui qui était dans l'embarras et non pas moi. Ce raisonnement coula de source. Aurait-il paraît fin et ne l'est pas. Il n'y a rien de si simple. On ne s'aperçoit pas seulement qu'on le fait. Il est vrai que ceux contre qui on raisonne comme cela n'ont pas grand-chose et ni retour à espérer de vous. Cela suppose qu'en fait d'amour, on ne se soucie guère d'eux. Aussi, de ce côté-là, M. de Climal m'était-il parfaitement indifférent, et même de cette indifférence qui va devenir haine si on la tourmente. Peut-être eut-il ma première inclination si nous avions commencé autrement ensemble. Mais je ne l'avais connu que sur le pied d'un homme pieux qui entreprenait d'avoir soin de moi par charité, et je ne sache point de manière de connaître les gens qui éloignent tant de les aimer de ce qu'on appelle amour. Il n'y a plus de sentiment tendre à demander à une personne qui n'a fait connaissance avec vous que dans ce goût-là. L'humiliation qu'elle a soufferte vous a fermé son cœur de ce côté-là. Ce cœur en garde une rancune que lui-même il ne sait pas qu'il a, tant que vous ne lui demandez que des sentiments qui vous sont justement dus. Mais lui demandez-vous d'une certaine tendresse, oh, c'est une autre affaire. Son amour-propre vous reconnaît alors, vous vous êtes brouillé avec lui, sans retour là-dessus, il ne vous pardonnera jamais. Et c'est ainsi que j'étais avec M. de Climal. Il est vrai que si les hommes savaient obliger, je crois qu'ils feraient tout ce qu'ils voudraient de ce qui leur aurait obligation. Car est-il rien de si doux que le sentiment de reconnaissance quand notre amour propre n'y répugne point? On en tirerait des trésors de tendresse, au lieu qu'avec les hommes on a besoin de deux vertus, l'une pour empêcher d'être indigné du bien qu'il vous faut, l'autre pour vous imposer la reconnaissance. Monsieur de Climal m'avait parlé d'un habit qu'il voulait me donner, et nous sortîmes pour l'acheter à mon goût. Je crois que je l'aurais refusé si j'avais été bien convaincu qu'il avait de l'amour pour moi, car j'aurais eu un dégoût, ce me semble invincible, à profiter de sa faiblesse, surtout ne la partageant pas, car quand on la partage, on a juste cela, on s'imagine qu'il y a beaucoup de délicatesse à n'être point délicat là-dessus, mais je doutais encore de ce qu'il avait dans l'âme. Et supposer qu'il n'eût que de l'amitié, c'était donc une amitié extrême, qui méritait assurément le sacrifice de toute ma fierté, et aussi j'acceptais l'ordre de l'habit à tout hasard. L'habit fut acheté, je l'avais choisi, il était noble et modeste, et tel qu'il aurait pu convenir à une fille de condition qui n'aurait pas eu de bien. Après cela, M. de Climal parla de linge, et effectivement j'en avais besoin. Encore autre achat que nous allâmes faire. Madame Dutour aurait pu lui fournir ce linge, mais il avait ses raisons pour n'en point prendre chez elle. C'est qu'il le voulait trop beau. Madame Dufour aurait trouvé la charité outrée, et quoique ce fût une bonne femme qui ne s'en serait pas souciée, et qui aurait cru que ce n'était pas là son affaire, il était mieux de ne pas profiter de la commodité de son caractère et d'aller ailleurs. Oh, pour le coup, ce fut ce beau linge qu'il voulut que je prisse qui me fit au fait de ses sentiments. Je m'étonnais même que l'habit, qui était très propre, m'eût encore laissé quelques doutes, car la charité n'est pas galante dans ses présents. L'amitié même, si secourable, donne du bon et ne songe point au magnifique. Les vertus des hommes ne remplissent que bien précisément leurs devoirs. Elles seraient plus volontiers mesquines que prodigues dans ce qu'elles font de bien. Il n'y a que les vices qui n'ont point de ménage. Alors je lui dis tout bas, alors que je ne voulais point de linge si distingué. Et je lui parlais sur ce ton-là, sérieusement. Il se moqua de moi, il me dit: Vous êtes une enfant, taisez-vous, hein? Allez vous regarder dans le miroir et voyez si cela est trop beau pour votre visage. Et puis, sans vouloir m'écouter, il alla son train. Je vous avoue que je me trouvais bien embarrassé, car je voyais qu'il était sûr qu'il m'aimait, qu'il ne me donnait qu'à cause de cela, et qu'il espérait me gagner par là, et qu'en prenant ce qu'il me donnait, moi, je rendais ses espérances assez bien fondées. Je consultai donc en moi-même ce que j'avais à faire, et à présent que j'y pense, je crois que je ne consultais que pour perdre du temps. J'assemblais je ne sais combien de réflexions dans mon esprit. Je me taillais de la besogne afin que, dans la confusion de mes pensées, j'eusse plus de peine à prendre mon parti et que mon indétermination ne fût plus excusable. Par là, je reculais une rupture avec M. de Climal et je gardais ce qu'il me donnait. Cependant, j'étais bien honteuse de ces vues, ma chère amie. La sœur du curé me revenait dans l'esprit. Quelle différence affreuse, me disais-je, des secours qu'elle me donnait à ceux que je reçois. Quelle serait la douleur de cette amie si elle vivait et qu'elle vit l'état où je suis? Il me semblait que mon aventure violait d'une manière cruelle le respect que je devais à sa tendre amitié, il me semblait que son cœur en soupirait dans le mien, et tout ce que je vous dis là, je n'aurais pas pu l'exprimer, mais je le sentais. D'un autre côté, je n'avais plus de retraite, et M. de Climal m'en donnait une. Je manquais de hardes, et il m'en achetait, et c'était de belles hardes que j'avais déjà essayées dans mon imagination. Et j'avais trouvé qu'elle m'allait à merveille. Mais je n'avais garde de m'arrêter à cet article qui se mêlait dans mes considérations, car j'aurais rougi du plaisir qu'il me faisait. Et j'étais bien aise apparemment que ce plaisir fît son effet sans qu'il y eût de ma faute. Souplesse admirable pour être innocent d'une sottise qu'on a envie de faire. Après cela, me dis-je, Monsieur de Climal ne m'a point encore parlé de son amour, peut-être même n'osera-t-il m'en parler de longtemps, et ce n'est point à moi à deviner le motif de ses soins. On m'a mené à lui comme à un homme charitable et pieux. Il me fait du bien, tant pis pour lui, si ce n'est point dans de bonne vue. Je ne suis pas obligé de lire dans sa conscience, et je ne serai complice de rien. Tant qu'il ne s'expliquera pas, ainsi j'attendrai qu'il me parle sans équivoque. Ce petit cas de conscience, ainsi décidé, mes scrupules se dissipèrent, et le linge et l'habit me parurent de bonne prise. Je les emportai chez Madame Dutour. Il est vrai qu'en nous en retournant, Monsieur de Climal rendit par-ci par-là sa passion encore plus aisée à deviner que de coutume. Il se démasquait petit à petit. L'homme amoureux se montrait. Je lui voyais déjà la moitié du visage, mais j'avais conclu qu'il fallait que je le visse tout entier pour le reconnaître. Sinon, il était arrêté que je ne verrais rien. Les hardes n'étaient pas encore en lieu de sûreté, et si je m'étais scandalisé trop tôt, j'aurais peut-être tout perdu. Les passions de l'espèce de celle de Monsieur de Climal sont naturellement lâches quand on les désespère. Elles ne se piquent pas de faire une retraite bien honorable. C'est un vilain amant qu'un homme qui vous désire plus qu'il ne vous aime. Non pas que l'amant le plus délicat ne désire à sa manière, mais du moins c'est que chez lui les sentiments du cœur se mêlent avec les sens. Tout cela se fond ensemble. Ce qui fait un amour tendre et non pas vicieux, quoique la vérité est capable du vice. Car tous les jours, en fait d'amour, on fait très délicatement des choses fort grossières, mais il ne s'agit point de cela. Je feignis donc de ne rien comprendre au petit discours que me tenait M. de Climal pendant que nous retournions chez Madame Dutour. Oh, j'ai peur de vous aimer trop, Marianne, me disait-il. Et si cela était, que feriez-vous? Je ne pourrais en être que plus reconnaissante s'il était possible, lui répondais-je. Cependant, Marianne, je me défie de votre cœur quand il connaîtra toute la tendresse du bien, ajouta-t-il, car vous ne la savez pas. Comment, lui dis-je, vous croyez que je ne vois pas votre amitié? Et non, ne changez point mes termes, reprit-il. Je ne dis pas mon amitié, je parle de ma tendresse. Quoi, dis-je, n'est-ce pas la même chose? Non, Marianne, me répondit-il, en me regardant d'une manière à m'en prouver la différence. Non, chère fille, ce n'est pas la même chose, et je voudrais bien que l'un vous parût plus douce que l'autre. Là-dessus, je ne pus m'empêcher de baisser les yeux, quoique j'y résistasse. Mais mon embarras fut plus fort que moi. Mais vous ne me dites mot, est-ce que vous m'entendez? Me dit-il en me serrant la main. C'est, lui dis-je, oh, je suis honteuse de ne savoir que répondre à tant de bonté. Heureusement pour moi, la conversation finit là, car nous étions arrivés. Tout ce qu'il put faire, ce fut de me dire à l'oreille: Allez, friponne, allez rendre votre cœur plus traitable et moins sourd. Je vous laisse le mien pour vous y aider. Ce discours était assez net, et il était difficile de parler plus français. Je fis semblant d'être distraite pour me dispenser d'y répondre. Mais un baiser qu'il m'appuya sur l'oreille en me priant s'attirait mon attention, malgré que j'en eusse, et il n'y avait pas moyen d'être sourde à cela, aussi ne le fus-je pas. Monsieur, ne vous ai-je pas fait mal? M'écriai-je d'un air naturel, en feignant de prendre le baiser qu'il m'avait donné pour le choc de sa tête avec la mienne. Ah, dans le temps que je disais cela, je descendais de carrosse, et je crois qu'il fut la dupe de ma petite finesse, car il me répondit très naturellement que non. J'emportai le ballot de harde que j'allais serrer dans notre chambre pendant que M. de Climal était dans la boutique de Madame Dutour. Je redescendis sur le champ. Marianne, me dit-il d'un ton froid, faites travailler à votre habit dès aujourd'hui. Je vous reverrai dans 3 ou 4 jours et je veux que vous l'ayez. Et puis, parlant à Madame Dutour, j'ai tâché, dit-il, de la sortir avec de très beaux linges qu'elle m'a montrés et que lui a laissé la demoiselle qui est morte. Et là-dessus, vous remarquerez, ma chère amie, que M. de Climal m'avait averti qu'il parlerait comme cela à Madame Dutour. Et je pense vous en avoir dit la raison, qu'il ne me dit pourtant pas, mais que je devinais. D'ailleurs, ajouta-t-il, je suis bien aise que mademoiselle soit proprement mise, parce que j'ai des vues pour elle qui pourront réussir. Et tout cela du ton d'un homme vrai, respectable, car M. de Climal, tête à tête avec moi, ne ressemblait point du tout à M. de Climal parlant aux autres. À la lettre, c'étaient deux hommes différents, et quand je lui voyais son visage dévot, je ne pouvais pas comprendre comment ce visage-là ferait pour devenir profane et tel qu'il était avec moi. Mon Dieu, que les hommes ont de talent pour ne rien valoir! Il se retira après un demi-quart d'heure de conversation avec Madame Dutour. Oh, il ne fut pas plus tôt parti que celle-ci, à qui il avait conté mon histoire, se liait à louer sa piété, sa bonté de son cœur. Marianne, me dit-elle, vous avez fait là une bonne rencontre quand vous l'avez connue. Voyez ce que c'est. Il a autant de soin de vous que si vous étiez son enfant. Et cet homme-là n'a peut-être pas son pareil dans le monde pour être bon et charitable. Le mot de charité ne fut pas de mon goût. Il était un peu cru pour un amour-propre aussi douillet que le mien. Mais Madame Dutour n'en savait pas davantage. Ses expressions allaient comme son esprit, qui allait comme il plaisait à son peu de malice et de finesse. Je fis pourtant la grimace, mais je ne dis rien, car nous n'avions pour témoin que la grave Mademoiselle Toinon, bien plus capable de m'envier les hardes qu'on me donnait que de me croire humilié de les recevoir. Oh, pour cela, Mademoiselle Marianne, me dit-elle à son tour d'un ton, air un peu jaloux, il faut que vous soyez ni coiffée. Au contraire, lui répondis-je, je suis née très malheureuse, car je devais être, sans comparaison, être mieux que je ne suis. À propos, reprit-elle, est-il vrai que vous n'avez ni père ni mère et que vous n'êtes l'enfant à personne? Cela est plaisant. Effectivement, lui dis-je d'un ton piqué, oui, cela est fort réjouissant. Et si vous m'en croyez, vous m'en ferez vos compliments. Taisez-vous, idiote, lui dit Madame Dutour, qui vit que j'étais fâché. Elle a raison de se moquer de vous, remerciez Dieu de vous avoir conservé vos parents. Qu'est-ce que j'avais dit aux gens qui sont des enfants trouvés? Oh, mais j'aimerais autant qu'on me dise que je suis bâtarde. N'était-ce pas là prendre mon parti d'une manière bien consolante? Aussi le zèle de cette bonne femme me choqua-t-il autant que l'insulte de l'autre, et les larmes m'en vinrent aux yeux. Madame Dutour en fut touchée, sans se douter de sa maladresse qui les faisait couler, et son attendrissement me fit trembler. Oh, je craignis encore quelques nouvelles réprimandes à Toinon, et je me hâtai de la prier de ne dire mot. Toinon, de son côté, me voyant pleurer, se déconcerta de bonne foi, car elle n'était pas méchante, et son cœur ne voulait fâcher personne, sinon qu'elle était vaine, parce qu'elle s'imaginait que cela était décent. Mais comme elle n'avait pas un habit neuf aussi bien que moi, peut-être qu'elle avait cru qu'en place de cela, il fallait dire quelque chose et redresser un peu son esprit, comme elle redressait sa figure. Voilà d'où me vint la belle apostrophe qu'elle me fit, et dont elle me demanda très sincèrement excuse. Et comme je vis que ces bonnes gens n'entendaient rien à ma fierté, ni à ses délicatesses, et qui ne savaient pas le quart du mal qu'ils me faisaient, je me rendis de bonne grâce à leurs caresses, et il ne fut plus question que de mon habit qu'on voulut voir avec une curiosité ingénue, et qui me fit venir aussi la curiosité d'éprouver ce qu'elles en diseraient. J'allais donc le chercher sans rancune, et avec la joie de penser que je le porterais bientôt, je prends le paquet tel que je l'avais mis dans la chambre et je l'apporte. La première chose qu'on vit en le défaisant, ce fut ce beau linge dont on avait pris tant de peine à sauver l'achat, qui avait coûté la façon d'un mensonge à M. de Climal et à moi un consentement à ce mensonge. Voilà ce que c'est que l'étourderie des jeunes gens. J'oubliais que ce maudit linge était dans le paquet avec l'habit. « Oh, oh !» dit Madame Dutour, « en voici bien d'une autre. » Monsieur de Climal nous disait que c'était la demoiselle défunte qui vous avait laissé cela. C'est pourtant lui qui vous l'a acheté, Marianne. Oh, c'est fort mal à vous de dire d'avoir pas pris chez moi. Vous n'êtes pas plus délicate que les duchesses qui en prennent bien. Et votre monsieur de Climal est encore plaisant. Mais je vois bien ce que c'est, ajouta-t-elle en tirant l'étoffe de l'habit qui était dessous, pour la voir, car sa colère n'interrompit point sa curiosité, qui est un mouvement chez les femmes qui va avec tout ce qu'elles ont dans l'esprit. Oh, je vois bien ce que c'est. Je devine pourquoi on a voulu m'en faire accroître sur ce linge-là. Mais je suis pas si bête qu'on le croit. Je n'en dis pas davantage, je l'ai remporté. Remporté, pardi, le tour est joli. On a la beauté de mettre mademoiselle en pension chez moi, et ce qu'il lui faut, On l'achète ailleurs. Oh, j'en ai l'embarras et les autres le profitent. Ah, je vous le conseille. Pendant ce temps-là, Toinon soulevait mon étoffe du bout des doigts, comme si elle avait craint de se les salir, et disait: Diote, ben y a rien de tel que d'être orpheline. Et la pauvre fille, ce n'était presque que pour figurer dans l'aventure qu'elle disait cela. Et toute sage qu'elle était, quiconque lui en eût donné autant l'aurait rendue stupide de reconnaissance. Laissez cela, Toinon, lui dit Madame Dufour. Je voudrais bien voir que cela vous fît envie. Jusque-là, je n'avais rien dit. Je sentais tant de mouvements, tant de confusion, tant de dépit, que je ne savais par où commencer pour parler. C'était d'ailleurs une situation bien neuve pour moi que la mêlée où je me trouvais. Je n'avais jamais tant vu. À la fin, quand mes mouvements furent un peu éclaircis, la colère se déclara la plus forte. Mais ce fut une colère si franche et si étourdie qu'il n'y avait qu'une fille innocente de ce dont on l'accusait qui pût la voir. Il était pourtant vrai que M. de Climat était amoureux de moi, mais je savais bien aussi que je ne voulais rien faire de son amour. Et si, malgré cet amour que je connaissais, j'avais reçu ses présents, c'était par un petit raisonnement que mes besoins et ma vanité m'avaient dicté, et qui n'avait rien pris sur la pureté de mes intentions. Mon raisonnement était sans doute une erreur, mais non pas un crime. Aussi je ne méritais pas les outrages dont me chargeait Madame Dufour. Et je fis un vacarme épouvantable. Je débutai par jeter l'habit et le linge par terre, sans savoir pourquoi, seulement par fureur. Ensuite je parlais, ou plutôt je criais, et je ne me souviens plus de tous mes discours, sinon que j'avouais en pleurant que M. de Climat l'avait acheté le linge et qu'il m'avait défendu de le dire, sans m'instruire des raisons qu'il avait pour cela, et qu'au reste j'étais bien malheureuse de me trouver avec des gens qui m'accusaient à si bon marché. Oh, que je voulais sortir sur le champ, que j'allais envoyer chercher un carrosse pour emporter mes hardes, que j'irais où je pourrais, qu'il valait mieux qu'une fille comme moi mourût d'indigence que de vivre aussi déplacée que je l'étais, que je leur laissais les présents de M. Climal, que je m'en souciais aussi peu que de son amour, s'il était vrai qu'il en eût pour moi. Enfin, j'étais comme un petit lion, ma tête s'était démontée, et outre que tout ce qui pouvait m'affliger se présentait à moi, la mort de ma bonne amie, la privation de sa tendresse, la perte terrible de mes parents, les humiliations que j'avais souffertes, l'effroi d'être étrangère à tous les hommes et de ne voir la source de mon sang nulle part, la vie d'une misère qui ne pouvait peut-être fuir que par une autre, car je n'avais que ma beauté qui pût me faire des amis. Et voyez quelle ressource que le vice des hommes! N'était-ce pas là de quoi renverser une cervelle aussi jeune que la mienne? Madame Dutour fut effrayée du transport qui m'agitait. Elle ne s'y était pas attendue et n'avait compté que de me voir honteuse. Mon Dieu, Marianne, me disait-elle, quand elle pouvait placer un mot, on peut se tromper, apaisez-vous. Oh, je suis fâchée de ce que j'ai dit, car mon emportement ne manqua pas de me justifier. J'ai trop oublié pour être coupable, trop outré. Allô, ma fille. Mais j'allais toujours mon train et à toute force je voulais sortir. Enfin, elle me poussa dans une petite salle où elle s'enferma avec moi. Et là, j'en dis encore tant que je puisais mes forces. Il ne me resta plus que des pleurs. Jamais on n'en a tant versé et la bonne femme, voyant cela, se mit à pleurer aussi du meilleur de son cœur. Là-dessus, Toinon entra pour nous dire que le dîner était prêt. Et Toinon, qui était de l'avis de tout le monde, pleura parce que nous pleurions. Et moi, après tant de larmes, attendri par les douceurs qu'elles me dirent toutes deux, je m'apaisais, je me consolais, j'oubliais tout. La forte pension que M. de Climal payait pour moi contribua peut-être un peu au tendre repentir que Madame Dutour eut de m'avoir fâché, de même que le chagrin de n'avoir pas vendu le linge, l'avait, sans comparaison, bien plus indisposé contre moi que toute autre chose. Car pendant le repas, prenant un autre ton, elle me dit elle-même que si M. de Climal m'aimait, comme il y avait apparence, il fallait en profiter. Oh, je n'ai jamais oublié les douceurs qu'elle me tint. « Tenez, Marianne, me disait-elle, à votre place, oh, moi je sais bien comment je ferais, car puisque vous ne possédez rien, et que vous êtes une pauvre fille qui n'avait pas seulement la consolation d'avoir des parents, eh bien je prendrais d'abord tout ce que M. de Climal me donnerait, j'en tirerais tout ce que je pourrais. Je ne l'aimerais pas, moi, je m'en garderais bien. L'honneur doit marcher le premier, et je ne suis pas femme à le dire autrement. Vous l'avez bien vu, en un mot comme en mille, tournez tant qu'il vous plaira. Il n'y a rien de tel que d'être sage, je mourrai dans cet avis. Mais ce n'est pas à dire qu'il faille jeter ce qui vous vient trouver, il y a moyen d'accommoder tout dans la vie. Par exemple, voilà vous et M. de Climat, eh bien, faut-il lui dire « Allez-vous-en » Non, assurément. Il vous aime, alors c'est pas votre faute. Tous ces bigots n'en font point d'autre. Laissez-le aimer, que chacun réponde pour soi. Il vous achète des nippes, eh bien, prenez toujours, puisqu'elles sont payées. Et s'il vous donne de l'argent, faites pas la sotte et tendez la main bien honnêtement. C'est pas à vous à faire la glorieuse. S'il vous demande de l'amour, alors doucement ici, jouez d'adresse et dites-lui que cela viendra. Promettre et tenir même les gens bien loin, ça demande de l'amour. Allons, doucement. Premièrement, il faut du temps pour que vous l'aimiez. Et puis quand vous ferez ensemble de commencer à l'aimer, il faudra du temps pour que cela augmente. Et puis, quand il croira que votre cœur est à point, n'avez-vous pas l'excuse de votre sagesse? Est-ce qu'une fille ne doit pas se défendre? N'a-t-elle pas mille bonnes raisons à dire aux gens? Ne les prêche-t-elle pas sur le mal qu'il y aurait? Et pendant quoi le temps se passe, et les présents viennent sans qu'on les aille chercher, et un homme à la fin fait le mutin, qu'il s'accommode ou cesse fâcher aussi bien que lui, et puis on le laisse là, et ce qu'il a donné est donné. Pardi, il n'y a rien de si beau que le don, et si les gens ne donnaient rien, ils garderaient donc tout. Oh, s'il me venait un dévot qui m'en comptât, il me ferait des présents jusqu'à la fin du monde avant que je lui dise « Arrêtez-vous !» La naïveté et l'affection avec laquelle Madame Dutour débitait ce que je vous dis là valait encore mieux que ces leçons, qui sont assez douces assurément, mais qui pourraient faire d'étranges filles d'honneur des écolières qui le suivraient. La doctrine en est un peu périlleuse. Je crois qu'elle mène sur le chemin du libertinage. Et je ne pense pas qu'il soit aisé de garder sa vertu sur ce chemin-là. Toute jeune que j'étais, je n'approuvais point intérieurement ce qu'elle me disait. Et effectivement, quand une fille en pareil cas serait sûre d'être toujours sage, la pratique de ces lâches maximes la déshonorerait toujours. Dans le fond, ce n'est plus avoir de l'honneur que de laisser espérer aux gens qu'on leur en manquera. L'art d'entretenir un homme dans cette espérance-là, je l'estime encore plus honteux qu'une chute totale dans le vice, car dans les marchés, même infâmes, le plus infâme de tous est celui où l'on est fourbe et de mauvaise foi par avarice. N'êtes-vous pas de mon sentiment? Pour moi, j'avais le caractère trop vrai pour me conduire de cette manière-là. Je ne voulais ni faire le mal, ni sembler le promettre. Je haïssais la fourberie de quelque espèce qu'elle fût, surtout celle-ci, dont le motif était d'une bassesse qui me faisait horreur. Ainsi, je secouais la tête à tous les discours de Madame Dutour, qui voulait me convertir là-dessus, pour son avantage et pour le mien. De son côté, elle aurait été bien aise que ma pension eût duré longtemps et que nous eussions fait quelques petits cadeaux ensemble de l'argent de M. de Climal. C'était ainsi qu'elle s'en expliquait en riant, car la bonne femme était gourmande et intéressée, et moi, je n'étais ni l'un ni l'autre. Quand nous eûmes dîné, mon habit et mon linge furent donnés aux ouvrières, et la Dutour leur recommanda beaucoup de diligence. Elle espérait sans doute qu'en me voyant brave, c'était son terme, je serais tenté de laisser durer plus longtemps mon aventure avec Monsieur de Climal. Et il est vrai que, du côté de la vanité, je menaçais d'être furieusement femme. Un ruban de bon goût, un habit galant, quand j'en rencontrais, m'arrêtait tout court. Je n'étais plus de sang-froid, je m'en sentais pour une heure et je ne me manquais pas de m'ajuster de tout cela en idée. Comme je vous l'ai déjà dit de mon habit, enfin là-dessus, je faisais toujours des châteaux en Espagne en attendant mieux. Mais malgré cela, depuis que j'étais sûr que M. de Climal m'aimait, j'avais absolument résolu, s'il m'en parlait, de lui dire qu'il était inutile qu'il m'aimât. Après quoi, je prendrais sans scrupule tout ce qu'il voudrait me donner. C'était là mon petit arrangement. Au bout de 4 jours, on m'apporta mon habit et du linge. C'était un jour de fête, et je venais de me lever quand cela vint. À cet aspect, Toinon et moi nous perdîmes d'abord toutes deux la parole. Moi, d'émotion, de joie, elle, de la triste comparaison qu'elle fit de ce que j'allais être à ce qu'elle serait. Elle aurait bien troqué son père et sa mère contre le plaisir d'être orpheline au même titre que moi. Elle ouvrait sur mon petit attirail de grands yeux stupéfaits et jaloux, et d'une jalousie si humiliée que cela me fit pitié dans ma joie. Mais il n'y avait point de remède à sa peine, et j'essayai mon habit le plus modestement qu'il me fut possible, devant un petit miroir ingrat qui ne me rendait que la moitié de ma figure, et ce que j'en voyais me paraissait bien piquant. Je me mis donc vite à me coiffer et à m'habiller pour jouir de ma parure. Il me prenait des palpitations en songeant combien j'allais être jolie. La main m'en tremblait à chaque épingle que j'attachais. Je me hâtais d'achever sans rien précipiter pourtant, je ne voulais rien laisser d'imparfait. Mais j'eus bientôt fini, car la perfection que je connaissais était bien bornée. Je commençais avec des dispositions admirables, et c'était tout. Vraiment, quand j'ai connu le monde, oh, j'y faisais bien d'autres façons. Les hommes parlent de science et de philosophie. Voilà quelque chose de beau en comparaison de la science de bien placer un ruban ou de décider de quelle couleur on le mettra. Si on savait ce qui se passe dans la tête d'une coquette en pareil cas, combien son âme est déliée et pénétrante, si on voyait la finesse des jugements qu'elle fait sur les goûts qu'elle essaye, et puis qu'elle rebute, et puis qu'elle hésite de choisir, et qu'elle choisit enfin par pure lassitude, car souvent elle n'est pas contente et son idée va toujours plus loin que son exécution. Si on savait tout ce que je dis là, cela ferait peur, cela humilierait les plus forts esprits, et Aristote ne paraîtrait plus qu'un petit garçon. C'est moi qui le dis, qui le sais à merveille, et qu'en fait de parure, quand on a trouvé ce qui est bien, ce n'est pas grand-chose, et qu'il faut trouver le mieux pour aller de là au mieux du mieux, et que pour attraper ce dernier mieux, il faut lire dans l'âme des hommes et savoir pénétrer ce qui la gagne le plus à ce qui ne fait que le gagner beaucoup. Et cela est immense. Oui, je badine un peu sur notre science, et j'en fais point de façon avec vous, car nous ne l'exerçons plus ni l'une ni l'autre. Et à mon égard, si quelqu'un riait de m'avoir vue coquette, il n'a qu'à venir me trouver, je vous en dirai bien d'autres, et nous verrons qui de nous rira le plus fort. J'ai eu un petit minois qui ne m'a pas mal coûté de folie, quoiqu'il ne paraisse guère les avoir mérités à la mine qu'il fait aujourd'hui. Aussi il me fait pitié quand je le regarde, et je ne le regarde que par hasard. Oh, je lui fais presque plus cet honneur-là, exprès. Mais ma vanité, en revanche, s'en est bien donnée autrefois. Je me jouais de toutes les façons de plaire. Je savais être plusieurs femmes en une. Quand je voulais avoir un air fripon, j'avais un maintien, une parure qui faisait mon affaire. Et le lendemain, on me retrouvait avec des grâces tendres. Ensuite, oh, j'étais une beauté modeste, sérieuse, nonchalante. Je fixais l'homme le plus volage. Je dupais son inconstance parce que tous les jours, je lui renouvelais sa maîtresse. Et c'était comme s'il en avait changé. Mais je m'écarte toujours. Oh, je vous demande pardon. Cela me réjouit ou me délasse, et encore une fois, je vous entretiens. Je fus donc bien habité et habillé, et en vérité, dans cet état, j'effaçais si fort la pauvre Toinon que j'en avais honte. La Dutour me trouvait charmante. Toinon contrôlait mon ami, et moi, j'approuvais ce qu'elle disait par charité pour elle, car si j'avais paru aussi contente que je l'étais, elle en aurait été plus humiliée. Ainsi, je cachais ma joie. Toute ma vie, j'ai eu le cœur plein de ces petits égards-là pour le cœur des autres. Il me tardait de me montrer, d'aller à l'église pour voir combien on me regarderait. Toinon, qui tous les jours de fête était escorté de son amant, sortit avant moi de crainte que je ne la suivisse, et que cet amant, à cause de mon habit neuf, ne me regarda plus qu'elle, si nous allions ensemble. Car, chez de certaines gens, un habit neuf, c'est presque un beau visage. Je sortis donc, toute seule, un peu embarrassée de ma contenance, parce que je m'imaginais qu'il y en avait une à tenir, et qu'étant jolie et parée, il fallait prendre garde à moi de plus qu'à l'ordinaire. Je me redressai, car c'est par où commence une vanité novice, et autant que je puis m'en souvenir, je ressemblais assez à une aimable petite fille, toute fraîche, sortie d'une éducation de village, et qui se tient mal, mais dont les grâces encore captives ne demandent qu'à se montrer. Je ne faisais pas valoir non plus tous les agréments de mon visage. Je laissais aller le mien sur sa bonne foi, comme vous le disiez plaisamment l'autre jour d'une certaine dame. Malgré cela, nombre de passants me regardèrent beaucoup, et j'en étais plus réjoui que surprise, car je sentais fort bien que je le méritais, et sérieusement, il y avait peu de figures comme la mienne. Je plaisais au cœur autant qu'aux yeux, et mon moindre avantage était d'être belle. J'approche ici d'un événement qui a été l'origine de toutes mes autres aventures, et je vais commencer par là la seconde partie de ma vie. Aussi bien vous ennuyeriez-vous de la lire tout d'une haleine, et cela nous reposera toutes les deux.